C'est bon ?
C'est bon, j'ai envoyé l'enregistrement.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 11h live pour une émission préenregistrée pour ce lundi. Donc aujourd'hui le sujet du jour ça va être la marmite et dans les studios on a Eliane Rigamonti, bonjour.
Bonjour.
Et on a Mathieu Menghini, bonjour.
Bonjour.
Et on est avec Patrice, ça va ?
Ouais bien, ça va très très bien la patate comme toujours.
Et à la technique on est avec Fong, salut.
Salut tout le monde.
Ça...
Alors, la marmite, qu'est-ce que c'est ? Parce que moi, je connais l'histoire de la fameuse marmite
de l'escalade.
Voilà, qui est pleine de bonnes choses à l'intérieur.
Exactement. C'est vrai qu'on pense tout de suite à la marmite de l'escalade. Mais ce n'est pas le cas du tout. Alors, Mathieu et Eliane, pouvez-vous vous présenter ? Et bienvenue, en fait, d'abord. Hein, bienvenue.
Merci beaucoup.
Merci. Donc, moi, je m'appelle Eliane. Et je suis travailleuse sociale, comédienne formée au théâtre de l'opprimé. Et dans le cadre de la marmite, je suis médiatrice culturelle avec mon amie Barbara Sanantonio.
Merci.
Et moi, je suis Mathieu Menghini. J'ai une formation d'historien. En fait, je suis historien et praticien de l'action culturelle. L'action culturelle, c'est une expression qui interroge les liens entre culture et démocratie, entre art et social. Alors voilà, j'ai un passé dans la culture et puis maintenant j'ai basculé depuis 7 ans dans l'enseignement.
Bien, travailler au HES ?
Oui, dans le réseau des HES, soit avec de futurs artistes que je sensibilise à la question sociale, soit avec de futurs travailleurs sociaux que je sensibilise à la question culturelle.
Ah, c'est une bonne chose alors. Moi, j'aimerais commencer par une citation que vous avez sur votre site internet. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, de Robert Filliou. Cette citation, elle représente quoi pour vous la marmite ?
Mais ce qui est intéressant chez Robert Filliou, c'est cette idée d'associer l'art et la vie, non pas de considérer l'art comme un colifichet de l'existence, comme une cerise qu'on peut placer sur le gâteau quand on a les moyens de se payer le gâteau, mais de raccorder véritablement la culture, l'art aux urgences de la vie. D'une certaine manière, l'art peut permettre de nous représenter la vie et se représenter la vie, c'est la première condition pour avoir prise sur elle. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans mon passé de directeur de théâtre, au Théâtre Forum Mérin ou en Valais ou à Neuchâtel, ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir des personnes qui ressentent des choses très confusément en elles-mêmes. Et quand elles se confrontent à un tableau, à une pièce de théâtre, à un livre, d'avoir le sentiment que cette œuvre d'art va permettre d'exprimer mieux que la personne n'aurait pu le faire des choses qu'elle ressent très profondément. Et donner une forme à ses inquiétudes, donner une forme à ses soucis, c'est parfois la condition pour, comme je le disais tout à l'heure, avoir prise sur ses inquiétudes et ses soucis. Donc l'art est peut-être quelque chose qui peut appuyer nos vies et non pas simplement nous distraire de nos vies ou être un petit luxe qui serait réservé qu'à certaines couches sociales.
D'accord.
On peut affirmer ses idées grâce à l'art d'une certaine manière et puis envoyer des petits messages métaphoriques, personnels aussi, sans trop se dévoiler. C'est pas seulement une thérapie, c'est un moyen d'expression complet.
Absolument. Oui, absolument. C'est un moyen d'expression même parfois militant. Et ce qu'il y a d'intéressant, pour rester dans cette idée de militant, ce qu'il y a d'intéressant avec l'art, c'est qu'il ne cherche pas simplement à atteindre le niveau intellectuel, comme le ferait un essai politique, un manifeste. Il essaye aussi de toucher les affects. Et ce que l'on sait, c'est que pour mobiliser un citoyen, pour le faire intervenir effectivement dans l'espace public, il faut à la fois le convaincre au niveau de ses représentations, ce qui va orienter son action, mais il faut ici mobiliser en lui son énergie. Et ça, c'est souvent quand on parvient à toucher ses émotions, ses affects, qu'on arrive à atteindre cet autre aspect-là de la personne. Donc le citoyen, il est fait de représentations et de désirs, et l'art a cette force par rapport au manifeste intellectuel de ne pas s'intéresser uniquement aux représentations, mais également à ses désirs, à ses affects.
Et dans quel contexte s'est créée la marmite ? Quelle a été la raison première, on va dire, de la création de la marmite ?
Bon, il y a des raisons à la fois personnelles et contextuelles. Des raisons personnelles parce qu'on est toute une série de gens qui avons connu des parcours culturels, socioculturels, avec le sentiment parfois d'expériences tentées par le passé qui soit prenaient en compte beaucoup les manques de personnes issues de milieux sociaux, soit prenaient très largement en compte leurs ressources, mais ne conjuguaient pas forcément souci des manques et souci des ressources. Parfois étaient des expériences qui étaient menées dans une trop petite brièveté de temps, alors qu'il faut durer quand on veut vraiment se battre pour l'appropriation culturelle. Donc il y a des tas de raisons. Mais je dirais que la marmite, c'est un projet qui se définit suivant trois ambitions. C'est un projet d'action culturelle, c'est-à-dire qui veut élargir les lieux de culture, élargir les publics sociologiquement de ces institutions culturelles. On sait que les théâtres, par exemple, sont pour une partie d'entre eux très largement financés par l'argent de la démocratie. Or, seuls 13 à 17% de la population s'y rend. Donc, il nous semblait qu'il fallait démocratiser la culture et lever les obstacles économiques, psychosociaux, symboliques, cognitifs. Le fait qu'on se sent indigne de la culture, le fait qu'on se sente inapte à la culture. Ça, c'est le premier point, démocratiser la culture. Le deuxième point, la marmite se veut un projet d'action artistique, reconnaître qu'en chaque être humain, même s'il ne se destine pas à être un artiste professionnel, en chaque être humain, il y a une sensibilité, il y a de la créativité qui demande qu'à s'épanouir, qui demande qu'à avoir des occasions d'advenir. Et donc, on voulait non seulement permettre à des personnes d'aller à la culture, mais aussi valoriser la culture, la créativité qu'elles ont en elles. Et puis la troisième ambition, je pourrais la résumer par un slogan assez ambitieux, mais c'est contribuer. La marmite aimerait contribuer à démocratiser la démocratie. Démocratiser la démocratie, c'est dire que sur des grands sujets d'intérêt citoyen, d'intérêt existentiel, souvent on entend le monde académique, les experts, on entend le monde politique, on entend les mass médias, mais on entend très peu des gens plus modestes, des gens sans part, des gens que certains intellectuels appellent les gens sans voix, mais en fait ils ont une voix mais à laquelle on ne prête pas attention. Et donc l'idée, ce serait de proposer des parcours culturels qui touchent à des thématiques, et à la fin, cette thématique, elle donne lieu à une prise de parole de ces groupes sociaux que l'on entend peu. Une prise de parole qui intègre sensiblement l'espace public et qui permet justement à cet espace public de ne pas être la chasse gardée de ceux que je disais avant, les académiciens, les politiciens ou les journalistes.
En quoi consiste la marmite ?
La marmite, c'est précisément un peu ces éléments que je viens de signaler, mais peut-être que je peux rebondir un peu sur ce que vous disiez qu'elle n'était pas, en disant que vous connaissiez bien une marmite à Genève.
C'est vrai qu'on fait beaucoup l'amalgame, beaucoup de gens entendent la marmite, ils pensent en fait la marmite de l'escalade.
Alors voilà, ça apparaîtrait une grossière erreur et puis vraiment un nom mal choisi s'il n'y avait pas quand même un lien. Il y a quand même un lien parce que vous êtes genevois, ce que je ne suis pas. Moi, je suis fils d'immigré italien né à Neuchâtel. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette histoire de la marmite, c'est qu'on a le sentiment qu'une marmite, c'est d'abord le lieu d'un plaisir. Hein. On associe la marmite à un repas et on associe la marmite à un repas pris en commun. Et cette idée de plaisir collectif, c'est une chose que défend véritablement la marmite. Mais dans l'histoire de l'escalade, la marmite, c'est aussi une arme. Hein, c'est aussi une arme qui va permettre de valoriser l'indépendance genevoise, l'autonomie, l'autodétermination d'un peuple qui, à l'époque, est une des rares républiques dans l'Europe en question. Et donc, cette idée que la marmite, notre projet culturel, puisse être une arme de l'esprit critique, une arme pour défendre sa voix, une arme pour valider sa sensibilité, c'est aussi quelque chose qui nous allait bien. Donc on assume aussi ce lien avec le nom de la marmite, mais il y a un autre lien, on verra si on a le temps de l'évoquer, il y a une autre raison relativement à ce nom.
En tout cas, c'est métaphoriquement, moi, la première chose que j'ai perçue, c'est que la marmite en elle-même, le chaudron, c'est le lieu, la ville, les légumes et tout ça, c'est un peu les gens, et tout ça fait un bouillon de culture et qu'on peut retourner en armes aussi à certaines personnes qui seraient anti-art ou anti-budget, etc.
Très bonne métaphore.
Non, oui, mais c'est une bonne interprétation, c'est vrai.
Je connais rien à l'art, mais c'est un peu, c'est un peu ma mon interprétation du nom, quelque chose qui m'est apparu comme ça.
Ah, on part du principe que personne ne connaît rien à l'art. Hein. On part du principe qu'à partir du moment où on a une réaction, même un dépit, même le sentiment qu'on n'a rien compris ou qu'on n'a pas aimé ou que ce n'était pas pour nous, ou qu'on ne nous prend pas en compte, tout ça, ce sont des réactions qui nous intéressent vraiment et qui posent la question de savoir mais quelle est la responsabilité des lieux de culture ? Est-ce qu'ils se soucient de représenter toutes les sensibilités ? Et quand ils ne le font pas, est-ce qu'ils ne le font pas pour de bonnes raisons ? C'est-à-dire que un peu comme la question qu'on pourrait se poser par rapport à un parlement. Est-ce qu'un parlement, il doit être un phare par rapport à une société ou il doit être le miroir d'une société ? Est-ce que les parlementaires doivent coller à l'image du corps social ? S'il y a des ouvriers dans une société, il faut qu'il y ait des ouvriers dans un parlement. S'il y a des exclus dans une société, il faut qu'il y ait des exclus au parlement. Mmh. Ou est-ce que ça doit être la partie la plus avancée de la société ? Ben, dans les théâtres, la question se pose aussi. Est-ce que leurs programmes doivent être coller sur ce que veut la partie avancée des milieux culturels ou pas. Alors, je n'ai pas de réponse toute faite à ces questions-là, mais en allant avec des publics qui n'allaient pas ordinairement dans ces salles, dans ces musées, dans ces galeries, dans ces lieux de projection filmique, eh ben, on pose cette question et on la pose pas simplement sous la forme d'un micro-trottoir, on se la pose sur 6, 8, 10 mois, puisque les parcours dont je parlais avant prennent ce temps-là. Et quant au lieu, c'est vrai que ça me permet de donner une précision. Vous disiez que dans votre esprit, la marmite, c'était un lieu. Ce lieu, c'est le chaudron. En fait, la marmite, ce n'est pas de lieu. La marmite, elle se définit aussi comme étant une université populaire nomade de la culture. Université populaire parce qu'elle veut toucher toute la population, quels que soient les stigmates qu'elle se reconnaît ou qu'on lui impose, qu'on lui applique. Mais elle ne veut pas avoir de lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lieu qui lui est réservé et tous les lieux devraient lui être accessibles. Et dans nos collaborations, avec plus de 15-20 lieux de culture, je crois qu'on actualise, on montre dans les faits précisément ce caractère de nomadisme de notre marmite.
Vous parlez de public qui ne connaissent pas l'art. Comment ils ressortent, avec quelle émotion en fait ?
Bon, ça dépend beaucoup du public, ça dépend beaucoup de l'œuvre par rapport à laquelle ils réagissent. Si vous me permettez une anecdote que j'étais un peu, j'étais allé avec des femmes de Camarada, donc des femmes migrantes, des femmes du Mozambique, de Colombie, d'Irak, du Nigeria, d'ex-Union soviétique, du Portugal et d'autres nationalités encore. J'étais allé voir au théâtre de Carouge, un théâtre qui apparaît à certains comme un théâtre institutionnel, un peu bourgeois, une adaptation de Sophocle, de l'Antigone de Sophocle. Et c'est une pièce qui est liée à la mythologie grecque d'il y a plus de 2500 ans, une pièce d'1h45, très bavarde, un peu comme moi. Et donc,
non, pas de souci.
Pas de souci. Bon, on peut déboucher sur une deuxième heure au cas où. Vous me ferez des signes, je vous fais confiance.
Oui, pas de problème.
Voilà. Eh bien, cette pièce avait tout pour être d'une certaine manière rebutante. Et cette pièce, elle raconte une histoire qui est une histoire très forte. L'histoire des descendants d'un roi de Thèbes qui se disputent pour le pouvoir. Ces gens qui se disputent sont en fait deux frères. Éthéocle et Polynice, hein, c'est des noms grecs à l'ancienne, et Éthéocle et Polynice avaient décidé de se partager le pouvoir. Une année toi, une année moi. Mais après la fin de l'année de pouvoir d'Éthéocle, eh ben, il a pris goût au pouvoir et il veut plus abandonner les rênes à son frère. Et son frère va faire ce qu'on appelle monter une guerre civile en associant les armées des 7 cités voisines de Thèbes contre sa propre ville, contre les siens. Il va y avoir une guerre effroyable et à l'issue de cette guerre qui a fait quantité de morts, les deux frères vont s'entretuer. Se pose la question de la succession, c'est leur oncle qui devient roi de Thèbes, leur oncle qui s'appelle Créon. Et la première décision de Créon, c'est de dire l'un des frères aura droit à des funérailles pleines d'honneur, celui qui a défendu la cité, et l'autre sera traité comme moins qu'un chien, celui qui a attaqué sa propre cité. Ça veut dire qu'il ne sera pas enterré, et c'est une chose que ne supporte pas la sœur des deux frères, Antigone, qui dit « Une fois mort, il n'y a plus d'amis et d'ennemis, il a droit à recevoir une pelletée de terre sur son corps, sinon son âme sera éternellement errante. » Et là, dans le public ordinaire de Carouge, le public des habitués, le public des abonnés, tout le monde se dit « mais magnifique, Antigone, quel courage, c'est une jeune femme adolescente, elle ose contredire un décret du roi, et puis elle a raison, il y a une fois mort, etc. Mm-hmm. » Dans les femmes que j'ai menées au théâtre, l'une d'elles, nigériane, avait vécu une guerre civile. Elle avait perdu un frère, elle avait perdu un oncle. Et quand on est sorti de la pièce de théâtre et qu'on lui a demandé à qui vous vous identifiez, la plupart de ces femmes sont, comme le public majoritairement, identifiées à Antigone. Elle a dit non, c'est Créon qui a raison. J'ai dit, ah ben c'est surprenant parce que vraiment, une minorité du public ordinairement pense comme vous. Mais c'est vrai que c'est une pièce tragique, c'est une pièce où normalement il y a un dilemme, il y a hésitation entre deux positions. Mais dans notre société, 2500 ans plus tard, il n'y a plus d'hésitation. Tout le monde donne raison à Antigone. D'accord, et donc, on se disait, mais il faut vraiment interroger cette femme. Et cette femme me dit, si le chef de ma cité avait décidé d'honorer celui qui a été la cause de la mort de mon frère et de mon père, c'est moi qui prenais les armes. C'est moi qui prenais les armes. Et donc, on comprend que la position de Créon, c'est le souci de perpétuer la cité. Si on valorise celui qui l'attaque de la même manière que celui qui la défend, c'est l'équilibre, la cohésion de la cité qui risque d'être menacée. Mais plus personne à Genève, 2500 ans plus tard, plus personne n'a vécu, ou très peu de personnes ont vécu dans leur chair une guerre civile. Oui, et donc ces non-publics, parfois ils ont vécu des urgences existentielles, des urgences sociales, des urgences civiles comme la guerre, qui font que, bien que ne sachant rien de la mythologie grecque, ne sachant rien d'Antigone, ne comprenant pas tous les mots, ils comprennent parfois beaucoup mieux que des publics abonnés, instruits, universitaires, certaines choses. Donc, ça m'a appris à relativiser beaucoup.
Eh ben moi, j'ai appris quelque chose là. Oui. Et d'où vient le nom La Marmite ?
Alors, il y a cette allusion, ce coup d'œil, non, ce clin d'œil à l'escalade, mais il y a une autre raison, à la limite, qui me tient plus à cœur. Le premier choix de nom, c'est-à-dire, à partir du moment où on s'engage, il faut dire qu'on est situé. On est né à Genève, il y a ce lien à l'escalade. La deuxième raison, c'est l'histoire de deux ouvriers relieurs, des gens qui faisaient des livres au milieu du 19e siècle. L'un s'appelait Eugène Varlin, et c'est surtout à lui que l'on pense. La seconde était une femme, Nathalie Lemel, également ouvrière relieuse. Et ils avaient constaté qu'à Paris, en 1866, il y avait déjà un mouvement de ce qu'on appelle aujourd'hui la gentrification. De plus en plus, les riches habitaient le cœur de la ville et les pauvres étaient refoulés dans les bords de la cité, ce qui allait devenir la banlieue. Et donc, ces artisans, ces petits employés, ces ouvriers, ils avaient de plus en plus de peine à retourner chez eux à midi pour se nourrir. Et donc, ils se nourrissaient en payant beaucoup avec une mauvaise nourriture en restant à Paris à midi. Et donc, Eugène Varlin et Nathalie Lemel ont eu l'idée de créer des restaurants mutualistes en disant « on va tous se cotiser, le plus inspiré d'entre nous deviendra le cuistot et on aura notre lieu où manger bon marché. » Et une fois l'estomac sustenté, une fois la panse remplie, le soir venu, ces lieux sont devenus des lieux véritablement d'éducation populaire, où on discutait de transformation sociale. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'est que ces lieux, on a dit qu'ils étaient des lieux non dogmatiques. Il y avait les Saint-Simoniens, il y avait les marxistes, il y avait les proudhoniens, il y avait les libertaires de toute obédience, les anarchistes de toute obédience, les blanquistes, etc. Il y avait vraiment toute une série de populations mêlées qui pensaient l'avenir, un avenir meilleur, plus harmonieux. Et certains chanteurs lyriques qui gagnaient leur vie à l'opéra venaient chanter gratuitement dans ces restaurants le soir venu. Et cette idée de mêler le repas, l'idée d'une transformation sociale possible et en même temps des éléments de culture, ça nous a beaucoup plu. Et cette marmite, elle a fait florès. Il y en a eu une première, il y en a eu une deuxième, une troisième, une quatrième, une sixième, septième, une dixième en 2 ans. 10 marmites à Paris. Tellement qu'à l'époque où on vivait encore dans le Second Empire, sous Napoléon III, il a pris peur et il a fait interdire ces marmites. Mais on dit que c'est dans ces marmites que serait née l'idée des décrets les plus émouvants du grand mouvement social qui allait intervenir une année après la fin de ces marmites, en 1871. Ce grand mouvement social qu'on appelle la Commune de Paris, qui a duré 72 jours et dans lequel on a décidé que les femmes seraient l'égale des hommes, qu'elles auraient les mêmes droits politiques, les mêmes droits civils, les mêmes droits sociaux, que l'instruction serait libre, gratuite et obligatoire. C'est quelque chose qu'on associe souvent à la Troisième République, à Jules Ferry, etc. Mais c'est des choses qui étaient déjà actées dans ces marmites, dans ces restaurants mutualistes. Donc on retrouve ce lien entre social et culture, transformation sociale et prise de confiance de soi dans un milieu où le plaisir domine, et c'est ça qui nous a séduit dans ce nom.
Et donc l'art, est, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'y connaissais pas grand-chose parce que c'est truffé de codes, mais en gros l'art populaire est souvent contemporain, et donc pour comprendre en fait un art qu'on ne comprend pas, il suffit de connaître un peu l'histoire de passer des artistes qui ont ce qu'ils ont vécu à cette période pour pouvoir décoder avec les mêmes clés qu'on a aujourd'hui dans notre société le message derrière l'œuvre d'art en question, que ce soit une pièce ou une peinture. C'est l'art populaire et contemporain, et c'est par la suite qui devient spécifique, qui devient spécial et autre. Mais quand vous donnez l'accès, donc vous parlez d'accès à la culture, etc., est-ce que vous popularisez, on va dire, par justement l'histoire de certains artistes, est-ce que vous le rendez accessible, je veux dire, à monsieur tout le monde de cette manière-là ?
Oui, c'est une très bonne remarque. Effectivement, l'art est constitué de codes, mais l'art ne se réduit pas aux codes. Donc c'est vrai que c'est important de permettre de donner quelques balises en amont. C'est exactement ça qu'on appelle le travail de médiation. Chaque sortie culturelle est précédée d'une séance où on va interroger, on travaille sur ce qu'on appelle l'horizon d'attente, c'est-à-dire essayer de créer du désir, de la bonne volonté par rapport à la sortie qui advient. Et après ces sorties, on se retrouve et on dit ce qu'on a compris, ce qu'on a ressenti. Il y a toute une intelligence collective, une transaction collective du sens de ce qu'on a vu qui s'opère. Mais vraiment, vous avez raison de parler de codes, mais l'art ne se réduit pas à ces codes. Dans l'exemple que je prenais tout à l'heure avec ces femmes migrantes, dont certaines ne parlaient pas du tout le français, elles ont fait une lecture qui n'était justement pas littéraire ou langagière de la pièce qu'on est allé voir. Elles ont fait, si vous me permettez l'expression, une lecture plastique. C'est-à-dire qu'elles ont été beaucoup plus attentives au travail de la lumière, au travail du décor, au travail des corps. Par exemple, quand Antigone fait toute une tirade avec le poing fermé, elles se sont vraiment concentrées sur ce poing fermé. Et dans un simple poing fermé, un poing fermé, c'est aussi un code. Mmh. Elles ont pu voir une résolution, elles ont pu voir une force, elles ont pu voir une affirmation, et ainsi de suite.
Ou une attaque aussi.
Ou une attaque. Et dans le choix des costumes. Tiens, les costumes, on m'avait dit que c'était une pièce il y a 2500 ans, et j'observe que les costumes ont l'air très 20e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'on rapproche avec des costumes cette histoire de notre propre époque ? Est-ce que ça veut dire qu'au XXe siècle, il y a des choses, peut-être des guerres civiles, qui font revivre cette chose-là, qui ne serait pas réservée à la Grèce ? Donc, on peut vraiment lire un spectacle sans avoir les codes et le lire simplement autrement. Mais le but de la marmite, c'est de donner quelques balises, mais sans dire que les balises vous permettront de saisir l'œuvre. Jamais aucune œuvre ne se réduit à ses balises. On ne peut pas réduire une œuvre à un discours, sinon elle abandonnerait toute sa chair, elle abandonnerait toute sa forme pour ne devenir que discours.
Ça veut dire le comprendre.
Oui, je crois qu'il y a... Tout ne se joue pas au niveau intellectuel.
Oui, d'accord. Hein,
il y a vraiment des choses affectuelles, des choses que l'on ressent. Et travailler sur un ressenti. J'ai été mal à l'aise, ou je n'ai pas aimé, ou j'ai eu le sentiment qu'on se moquait de moi, ou qu'on me provoquait. Faire quelque chose de cela, c'est passionnant. Donc on n'exige pas de la marmite qu'elle amène les uns et les autres à des spectacles qui nous remplissent d'enthousiasme. Interroger la raison pour laquelle une œuvre nous résiste, pourquoi on ne l'aime pas, c'est parfois encore plus riche que de se dire simplement « j'ai passé un beau moment, c'était une belle chose », etc. Hein ? Interroger ce qui nous résiste. On ferait bien de le faire dans notre vie de tous les jours aussi, pour peut-être essayer de pouvoir sublimer ces résistances.
Merci.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Vous nous avez amené deux chansons aujourd'hui. Donc, on va commencer, je crois, par Jean
Ferrat.
Jean Ferrat, La Commune. Est-ce que vous pouvez nous donner la raison pour laquelle vous avez choisi cette chanson ?
Mais ça fait écho à ces personnages que j'évoquais tout à l'heure, Nathalie Lemel et Eugène Varlin. Eugène Varlin, Une fois ses marmites créées, 3 ans plus tard, il devenait l'un des militants de la Commune de Paris, l'un des plus importants. Tellement important, et il a perdu la vie dans ce combat, le dernier jour de la Commune, dans un moment effroyable de répression où les forces qu'on appelait les forces versaillaises du gouvernement bourgeois et monarchiste de l'époque, monarchiste parce qu'il y avait encore des gens qui tenaient à la royauté dans ce qui allait devenir cette Troisième République, eh bien la répression était effroyable, il y a eu des dizaines de milliers de morts, des tas de gens envoyés dans les colonies, et parmi ces morts, Eugène Varlin, qu'une fois qu'il a été reconnu comme étant un des militants les plus importants de cette commune, il a été dénoncé. Une fois dénoncé, on lui a donné des coups de baïonnette partout le corps et on lui a sorti l'œil de l'orbite. Je vous passe les détails avant de le fusiller. Et certains ont dit qu'il a vécu une passion, enfin une tragédie un peu comme le Christ. Et donc certains appellent Eugène Varlin le Christ de la classe ouvrière. Jean Ferrat ne s'attarde pas à ce seul personnage, mais à travers cette chanson sur la commune, c'est sa mémoire aussi qu'il évoque. C'est une chanson qui a été écrite 100 ans après les faits, en 1971.
Merci.
Alors, merci, on écoute ça tout de suite.
Il y a 100 ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, comme un, comme artisan et ouvrier, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un, comme ouvrier et artisan, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'était des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'était des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, comme un, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un, comme une étoile au firmament, ils s'éteignaient pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
Alors, de retour à l'antenne. Donc, on va passer dans la deuxième partie du sujet.
Exactement. Alors, ma question est pour toi, Eliane. Vous parlez des parcours artistiques, aussi celui sur la citoyenneté. Pouvez un petit peu développer?
Alors oui, je peux développer un petit peu, ou en tout cas présenter le parcours, puisque avec Barbara Santonio, nous sommes les deux médiatrices de ce parcours. Donc le public cible de ce parcours, c'est le public d'Argos, hein, les gens qui sont touchés par l'addiction, de proche ou de loin. Aujourd'hui, on a eu 2 rencontres avec ce public. La première pour faire connaissance et préparer un petit peu le spectacle qu'on allait voir, qui était Soulever la politique à la Comédie de Denis Guénoun.
Ouais, il me semble de l'avoir vu, cette pièce, il me semble.
Donc voilà, là il y avait à peu près 13 personnes qui étaient là à la première rencontre et une quinzaine au spectacle de la Comédie. On retrouve ce groupe dans une semaine pour partager un repas et puis un peu pour récolter les impressions, les j'aime pas, c'était trop long, c'était pas assez long, et puis ça m'a fait penser à ça.
Il y a toujours un débriefing après tout ça.
L'idée, c'est ça, c'est en même temps de préparer un petit peu, de se voir avant pour parler un peu de ce qu'on va voir, ou en tout cas de se donner envie d'aller voir ensemble un spectacle, et puis ensuite de se retrouver après le spectacle, quelques semaines après, pour partager ensemble nos impressions, nos ressentis, et aussi poser le jalon suivant, puisque début janvier, on ira visiter l'exposition Forum Mérin, qui s'appelle Architecture de papier.
Vous avez plusieurs projets avec ce groupe ?
Donc le parcours du Pelloutier, là, le parcours du groupe Pelloutier, ira voir, on a été voir le spectacle de théâtre à la Comédie Soulever la politique, on ira faire la visite de cette expo au Forum Mérin qui s'appelle Architecture de papier. Ensuite, on ira, sauf erreur, au mois de mars, voir le film Le Havre d'Aki Kaurismäki.
Sacré parcours avec ces gens-là. Hein.
Et ensuite, une dernière rencontre, on ira écouter la conférence de Luciano Canfora, qui est un intellectuel, Mathieu pourrait mieux en parler.
Oui, un des très grands savants européens, spécialiste de la démocratie. Comme effectivement Pelloutier interroge la question de la citoyenneté, l'idée c'est de démultiplier les angles d'approche avec ces quatre sorties. Chaque parcours d'ailleurs, chaque groupe vit toujours quatre sorties. D'accord. Et dans ces quatre sorties, il y a toujours un spectacle, toujours une expo, toujours la rencontre avec un intellectuel, une intellectuelle,
c'est
un poète,
intéressant,
un écrivain,
tout ça.
Et puis toujours, il me manque l'expo,
le film,
et toujours un film. Mais l'idée, c'est aussi non seulement de démultiplier les approches d'un thème, mais de rendre sensible au fait que le cinéma, il peut parler d'une thématique avec ses moyens, le théâtre avec les siens, l'art plastique avec les siens, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein, quand on aborde la question de la peur avec le cinéma, on peut se permettre les gros plans, travailler avec le son, mais un peintre, comment il fait ? Et donc ça rend sensible, ça approfondit non seulement le contenu, le thème, la citoyenneté dans le cadre du groupe d'Eliane, mais aussi les formes. Et donc c'est vraiment une forme d'appropriation d'une thématique, mais aussi d'appropriation des formes de l'art qui est ambitionnée.
Il y a une mise en scène créative appliquée avec une technique différente pour chaque art, en fait. C'est ça la différence entre, je ne sais pas moi, l'art
plastique.
L'art plastique et puis le pointillisme ou je ne sais quoi. Enfin, bref, l'art est infini par la technique, mais aussi par la manière d'appliquer et de mettre en scène cette technique et le message ou l'image.
Absolument. Peut-être que tu peux, Eliane, ajouter sur ce fait que chaque groupe a non seulement son parcours et chaque groupe a un parcours spécifique, chaque groupe a des médiateurs, médiatrices spécifiques et chaque groupe a en son sein encore un dernier personnage important et qui devient de plus en plus important à la fin du parcours, mais peut-être que tu peux dévoiler le vôtre.
Effectivement, donc dans chaque parcours, il y a, comme disait Mathieu, un groupe, un public cible, un parcours, deux médiateurs, médiatrices, enfin un binôme, et un artiste. Dans notre cas, nous, dans notre parcours, c'est Steve Juncker, qui est photographe et qui est autant photographe professionnel à la Tribune de Genève qu'un photographe artiste qui fait un travail, lui, autour de la question de la mort et de l'invisible. Donc il partage avec nous toutes ces rencontres, tous ces moments de partage. Et au fur et à mesure des rendez-vous qui vont s'écrire, il va lui créer une œuvre qui sera un peu une empreinte, un témoin de ce que le parcours, que ce que ce public-là cible aura traversé durant cette année.
Et ce sera quoi exactement son œuvre ? De quelle manière il va la transformer ou...
Alors, il a une idée de départ qu'il a déjà parlé. Enfin, il en a posé quelques jalons avec le groupe lors de notre première rencontre. Mais c'est quelque chose qui est en construction, qui va se construire au fur et à mesure de ces mois qu'on va vivre ensemble. Lui aurait une idée, mais je ne veux pas trop dévoiler de son projet, mais quelque chose autour de...
Restons secrets.
De portraits des personnes qui auraient constitué ce parcours, mais pas juste... des portraits photos qu'il exposerait comme ça, mais après de les mettre, de les imprimer sur du verre et de les juxtaper.
Sur du verre.
Sur du verre. C'est lui qui pourrait mettre verre, plexiglas et qui juxtaposerait, qui ferait justement un ensemble de portraits qui créerait, cet ensemble créerait un portrait collectif, on va dire.
Waouh, sacré boulot, hein, tout ça. Hein.
Et qu'il exposerait effectivement au mois de juin. Alors ça, c'est encore à définir avec lui.
D'accord.
Je sais plus s'il parlait de superposition de portraits.
C'est ça.
Et ce serait comme créer une unité dans la diversité, en fait. Montrer qu'on essaye de faire un entre des personnes d'une grande diversité. Mmh. Et donc, il essaye de trouver une technique qui parviendrait à exprimer cela. Donc, effectivement, c'est une idée formidable, mais il essaye de trouver une forme qui pourrait toucher tout en rendant cette idée qui est vraiment belle en démocratie, et qui a justement trait à cette idée de la citoyenneté qui est travaillée par ce parcours.
Travaillez-vous avec des lieux culturels ?
Oui, précisément. Peut-être que c'est l'occasion de dire comment vit la Marmite, hein, parce que la Marmite doit à quelques frais, elle organise des projections filmiques, elle organise des conférences, elle finance quand même les artistes et leurs productions, les actions de médiation ont leur coût aussi. Donc on a des tas de partenaires. Mais comme on estime faire une action de service public, d'intérêt général, si j'espère que ça ne paraît pas trop immodeste de le dire, mais on considère qu'on ne peut pas accepter n'importe quel argent. Et donc on s'est mis à refuser l'argent qui permet des défiscalisations, l'argent du jeu, etc. On trouve qu'il faut, quand on a des buts idéaux, ben avoir des financements qui collent à ces idées. Donc on a deux sources de financement. D'une part, des collectivités publiques qui croient pour des raisons culturelles ou sociales à notre action. La ville de Genève a été le premier très important partenaire. Il y a également la ville de Lausanne, le canton de Vaud. Il y a également au niveau national Pro Helvetia, qui est un peu notre fondation nationale pour la culture, qui nous a immédiatement soutenus et reconnus comme une action de médiation originale. Et puis sinon, et c'est là que je viens à la réponse à votre question, on a des tas de partenariats culturels. C'est-à-dire que chaque parcours étant singulier, on travaille avec plusieurs théâtres, comme le théâtre de la Comédie, historiquement, ça a été le premier lieu, mais on travaille avec le Festival de la Bâtie, avec le théâtre du Grutli, avec le théâtre de Vidi. On travaille avec des lieux d'exposition, la collection de l'art brut, le musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. On a travaillé avec le musée de la main. On travaille avec des lieux filmiques comme le Spoutnik, Fonction Cinéma, la Cinémathèque Suisse, etc., etc. On travaille
avec la
bibliothèque de la Cité pour accueillir une conférence, avec le musée d'ethnographie pour en accueillir une autre, avec le bâtiment du commun et le MAMCO pour en accueillir une troisième. Mmh. Donc on a vraiment ce réseau très large et qui est impliqué par notre nomadisme dont on parlait avant la pause musicale.
Avec quelle association, en fait, vous travaillez ?
Oui, ça c'est une chose vraiment qui nous tient à cœur. Oui.
En fait, je m'excuse de t'interrompre, est-ce que vous avez aussi des dons de personnes individuelles ?
Alors, on ne fait aucune publicité, mais on a reçu quelques dons très modestes. Mais comme aucun de nos événements n'est payant, vraiment, on attend l'argent de la démocratie, de l'impôt direct et progressif. Mmh. Et ça nous paraît la manière la plus juste de financer une action. C'est-à-dire que ce soit un financement en fonction des capacités contributives des uns et des autres. Donc on ne fait pas la charité, mais on a quand même des gens qui ont découvert à un endroit caché de notre site le compte bancaire et qui ont réussi à nous envoyer un peu d'argent, qu'ils en soient vraiment infiniment remerciés. Mais c'est vrai qu'on préfère grandir avec cet argent entre guillemets de la démocratie, et bien sûr que des privés nous permettraient d'avoir encore plus de parcours, mais on préfère grandir modestement, mais avec un argent qui nous semble collé à nos idéaux, plutôt que beaucoup plus rapidement et en ayant des cas de conscience. Mais pour ce qui est des associations avec lesquelles on travaille, donc effectivement, Eliane évoquait Argos, donc avec ses trois lieux, l'Entracte, le CRMT, le Toulourinque. On travaille dans le canton de Vaud avec Palabre, qui s'occupe d'éducation populaire avec des migrants, d'une assistance sociale également. On travaille avec des personnes du 3e et du 4e âge de cité senior. On travaille avec d'autres migrants, cette fois sur Genève, avec l'entraide protestante, la Roseraie, l'université ouvrière de Genève. On travaille avec la Haute École de Travail Social, avec les jeunes en situation de décrochage scolaire et sociaux liés à l'association Accroche Seine Active. On travaille avec ATD Carmonde et avec les femmes victimes de violences domestiques, l'association Solidarité Femmes qui désormais s'appelle AVEC. Ça, sur nos deux premières années d'existence. L'année prochaine, on va essayer de développer des liens avec sept autres associations, d'autres publics, notamment des personnes en situation de handicap, de polyhandicap et d'autres encore. Le mouvement populaire des familles peut-être, on verra. Je ne veux pas dévoiler nos pistes avant que les gens soient eux-mêmes au courant, de peur qu'ils vous entendent en ce lundi.
Des comités qui sont des. Il y a bien un comité, et puis y a-t-il des personnes dans ces comités ?
Je vois la méfiance que suggère votre question. Oui, il y a un comité qui n'est pas fantôme. La Marmite est une association, elle a un comité, et ce comité, il colle aussi à nos ambitions sociales, citoyennes et culturelles. Donc on a des gens qui viennent de ces différents milieux. Charles Magnien est le président de notre association. Il est professeur honoraire de l'Université de Genève. C'est quelqu'un qui a des missions importantes au Collège du Travail, qui assure la mémoire ouvrière, mais qui est aussi un des fondateurs des archives contestataires et donc qui s'est beaucoup impliqué dans les mouvements sociaux depuis des décennies et qui s'investit dans leur mémoire. C'est quelqu'un qui est très sensible aux questions de démocratisation de la culture et d'ouverture faite à tous les jeunes. On a des gens qui représentent les milieux culturels, comme Valérie Poirier, qui vient d'obtenir un prix suisse de théâtre. C'est une metteur en scène, un auteur, et donc elle représente la culture, de même que Florence Terqui, qui travaille à la Comédie de Genève, mais qui elle-même est très sensibilisée aux questions des artistes marginaux, qui est historienne de l'art, très impliquée dans le festival inclusif Out of the Box. On a également, parmi ces gens qui font la jonction entre le social et la culture, Nicole Reimann, responsable culturelle de l'Espace 34, très liée à Cap Loisir, donc. Et puis, pour vous citer une dernière personne, mais comme ça, vous avez un peu cette atmosphère. Mmh. On a quelqu'un qui fait écho avec Eugène Varlin et ses combats syndicalistes, c'est Georges Tissot, qui est précisément un syndicaliste qui avait des responsabilités importantes avant sa retraite et qui en a toujours aujourd'hui, qui est vice-président notamment de l'Université ouvrière de Genève, donc qui se pose la question de l'éducation populaire qu'on devrait associer pleinement à une citoyenneté entendue au sens large.
Et comment vous arrivez à attirer la jeunesse vers l'art, justement? Comment vous arrivez à leur attirer leur intérêt? Parce que c'est toujours le même problème. La jeunesse, parfois, ça va être de l'art abstrait ou de l'art contemporain. Mais quand on n'y connaît pas grand-chose, on n'est pas forcément attiré. Moi, j'ai été voir des expositions dans ma jeunesse parce que l'école m'y amenait. Mais venir de son propre chef, parfois, dans une exposition, c'est pas forcément... quelque chose qui a un intérêt particulier pour des jeunes ados, en gros. Mmh.
Vous avez raison, Eliane, tu me diras si tu veux ajouter quelque chose, mais d'une certaine manière, on s'y prend souvent en leur disant « on va vous amener ». Enfin, ordinairement, les gens s'y prennent en disant « on va vous amener du théâtre, en plus c'est gratuit », etc., comme si ça allait créer de soi une bonne volonté. Moi, je crois que la première action que doit entreprendre un projet comme le nôtre, c'est d'essayer de voir s'il y a une urgence dans la population à laquelle on entend s'adresser, qui peut trouver une résonance dans les urgences véhiculées par l'œuvre d'art ou vécues par l'artiste. Pour reprendre l'exemple, ça m'évitera de vous raconter tout un autre spectacle, mais pour reprendre l'exemple d'Antigone, j'y suis allé aussi avec des jeunes d'une maison de quartier, qui étaient à peu près tous des artistes de parcours, des hip-hoppers, etc. Alors quand il s'est agi de raconter l'arbre généalogique de la famille d'Antigone qu'il faut comprendre un peu si on veut savoir qui est le frère de qui, l'oncle de qui, parce que vous avez compris que c'était important, eh ben, pour leur présenter cet arbre généalogique, quand j'ai vu qu'ils étaient tous habillés avec un training qui de Chelsea, qui de Barcelone, qui de la Juventus de Turin, eh ben, j'ai dit, écoutez, voilà, on a affaire à une tactique avec du 4-4-2, donc là, il y a les 4, c'est les grands-parents, mal, ça, les 4 du milieu, alors là, au milieu de terrain, donc milieu gauche, vous avez le père d'Antigone, etc. Excellent. Et donc, on arrive tout à coup à créer une bonne volonté sur ce plan-là. Mais par exemple, l'histoire d'Antigone, c'est quand même cette jeune femme qui désobéit au roi. Le thème de la désobéissance civile, de la transgression par rapport à des jeunes ados qui se disent « je vais resquiller quand je monte dans le tram » ou qui se disent « je veux faire partie d'un squat » ou qui se disent « je vais taguer ou faire un graphe sur un mur »
ou se rebeller contre ses parents,
mais interroger les désobéissances, interroger les transgressions, interroger les motifs parfois existentiels très profonds ou politiques, et c'est simplement vu pour des déprédations, pour de la simple délinquance, ça crée de la bonne volonté. Dire, on va aller voir une fille dont l'histoire s'est passée il y a 2500 ans, mais elle a votre âge, et elle désobéit, ça fait déjà deux points communs, et elle ose tenir tête au roi. Et là, vous créez de la bonne volonté. Et c'est comme ça, quand on fait conjoindre deux urgences, celle d'une population, celle de l'œuvre, que tout à coup, on va créer un lien. Quand on est allé avec ces femmes migrantes, pour revenir sur mon précédent exemple, on leur a montré combien Antigone était un mythe qui n'avait pas cessé d'exister pendant ces 2500 ans. On leur a montré des vases grecs, on leur a montré des peintures de la Renaissance. Et elles ont été stupéfaites, certaines d'entre elles, qui étaient de confession musulmane, elles ont été stupéfaites quand, après leur avoir dit « Antigone, c'est l'un des chefs-d'œuvre du théâtre européen, du théâtre occidental », de voir qu'Antigone était représentée avec un voile sur certains vases et sur certaines peintures. Puis elles ont dit « Mais comment ça ? C'est la pièce peut-être la plus jouée, c'est la pièce, une des pièces les plus aimées en Occident, en Europe ?» Et puis cette héroïne, elle a un voile, et moi, quand je suis dans la rue, on me regarde avec défiance. Ça crée la bonne volonté. Elles se disent, mais c'est peut-être une petite sœur, Antigone. Mm-hmm. Et donc, vous créez un désir. Je ne vais peut-être pas tout comprendre. Je ne vais peut-être pas tout saisir. Je ne vais peut-être même pas aimer. Mais il y a quelque chose de et moi, de mon histoire.
En fait.
Exactement. Une identification.
Identification,
voire une anti-identification, une contre-identification, ça peut être possible. Ça vous parle, identifier à soi ou identifier à quelqu'un qui nous entoure, avec qui on est dans une relation crisique, par exemple.
Ouais, c'est pareil avec les aînés. Par exemple, ça m'est arrivé d'aller voir des expositions de street art, et tout d'un coup, vous avez une personne qui est relativement âgée, qui rentre et qui découvre un monde fantastique qu'elle ne connaissait pas, avec des dégradés de peinture, des personnages, des détails, puis une créativité aussi graphique importante. Donc c'est vrai que ce que vous dites, c'est juste, si l'artiste arrive à développer son œuvre avec quelques petits messages qui vont attirer l'intérêt d'une autre personne, peu importe la génération ou autre, même 1000 ans après, on va pouvoir s'identifier ou en tout cas s'imaginer ce qu'a vécu ou l'artiste, ou le personnage dans la pièce, etc. C'est assez intéressant de voir que intergénérationnellement, on arrive à s'intéresser à des choses qui n'ont pas les mêmes codes immédiatement, effectivement. Et moi, je pensais aussi à une chose, c'est que pensez-vous de l'art animal ? Parce que moi, j'ai été très touché par un peintre éléphant.
Très bonne question.
Et j'ai trouvé j'étais subjugué de voir un éléphant peindre une toile et il avait une joie de s'exprimer, en fait. Je ne sais pas si c'était par choix de couleur ou parce qu'il faisait des formes ou qu'il imitait les humains, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cet éléphant sur le net.
Oui, elle tourne.
Et je comprends que certains artistes avec des codes trouvent que voilà, c'est un animal qui peint, mais moi je voulais savoir ce que la marmite a déjà pensé à ça, l'art chez les animaux.
Ouais, bonne question ça. On ne voulait pas vous piéger. Hein,
mais
pas
je
du
vois
tout,
que
hein.
Vous avez... que c'est très piégeux cette émission.
Non,
à partir du moment où on est chaud, on se permet n'importe quelle question. Et bien écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, dire parce qu'il faut absolument chercher à faire le malin, même si la question est piquante. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'un des groupes est allé assister donc au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel à des œuvres d'art faites par des robots, les premiers robots de Suisse romande, ceux de l'ouvrier horloger Jacques Drault. Et donc, il a là une musicienne, un dessinateur, etc., qui font des œuvres, mais en étant pré-programmés. Donc, l'artiste robot, c'est aussi une question qui nous est posée. L'artiste éléphant, c'est votre question. Ce que je peux dire, c'est que la marmite interroge la beauté, elle interroge aussi la logique de la société. Mais les premiers intellectuels qui se sont posés la question de la beauté n'ont effectivement pas interrogé la beauté de l'être humain. Je pense à un Emmanuel Kant, un grand philosophe allemand du XVIIIe siècle, mais il n'a pas eu l'idée que vous me donnez aujourd'hui d'interroger non plus l'art des éléphants, il a interrogé simplement la beauté de la nature. Et donc il y a effectivement toute une beauté, toute une harmonie, en tout cas quantité de formes qui ne sont pas réalisées par l'être humain et qui peuvent nous interroger et qui génèrent aussi des questionnements, qui génèrent aussi des émotions. J'entendais l'un des poètes qui a été rencontré par un groupe, le groupe de Solidarité Femmes, un grand poète français, Jean-Pierre Siméon, qui un jour faisait un lien, alors je réponds vraiment de biais à votre question, mais c'est parce qu'elle était perfide, il racontait à ses femmes, il racontait à ses femmes qui l'écoutaient que un jour il avait un problème de plomberie chez lui. Et pendant 2 semaines, il a essayé de résoudre son problème de plomberie sans y parvenir, jusqu'au jour où il s'est décidé à faire intervenir un professionnel, l'artisan plombier. L'artisan plombier, Il s'est mis sur ses genoux, il a regardé quelques instants, il n'a même pas avancé ses mains sur l'évier et il a dit « Ah, je vais pouvoir résoudre votre problème ». Et en 2 coups de cuillère à peau, la chose était réglée. Et ce grand poète qu'est Jean-Pierre Siméon, il a dit « J'ai vu dans cet ouvrier plombier un frère. J'ai vu que c'était un frère ». Parce qu'à la base de toute poésie, il y a la même source qu'à la base de tout art de l'artisan, art de l'ouvrier, art du technicien. En effet, il y avait chez cette aptitude du plombier des centaines d'années d'expérience technique. Et derrière ces centaines d'années d'expérience technique, il y avait une interrogation face aux défis que nous lance la nature. Et questionner la nature, la regarder la flore, mais également la faune, on revient à l'éléphant, et essayer d'interroger la beauté et les questionnements qu'elle nous pose, eh ben c'est peut-être quelque chose qui fait se réunir des gens qui ont l'impression d'être de simples artisans éloignés de l'art et des artistes poètes. Mais derrière l'éléphant, il y a aussi l'idée d'une force et d'une fragilité, d'une beauté, mais aussi d'une potentielle malignité. Et ce sont des éléments qui vont très très bien ensemble dans l'éléphant et qui peuvent parfois très bien aller dans les arts aussi. Donc tout peut être matière à réflexion pour la marmite dans les thèmes qui sont les nôtres. Hein. Ça me permet de les placer. On a interrogé nos peurs, on a interrogé qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, on a interrogé nos expériences de l'injustice, on a interrogé le rapport au commerce, le rapport à l'attention, le rapport aux valeurs, le rapport au mouvement. Et puis, dans le groupe Pelloutier dont vous a parlé Eliane, la question de la citoyenneté. Donc aucune question, à partir du moment où elle peut avoir une universalité existentielle ou citoyenne, aucune question ne nous arrêtera. Un jour, je reviendrai parler de cette thématique éléphant dont on n'a effectivement pas encore eu l'idée.
Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on est bien d'accord. On pourrait passer un petit peu de musique, le choix d'Eliane, qui est Rigamonti, Troubadour, ma ville est le plus beau parc.
On va écouter ça tout de suite.
J'ai visité Disneyland, Disney World et le Schtroumpfland, plusieurs Futuropolis, le village d'Astérix. J'aime bien tous ces endroits où il y a du peuple et de la joie. Mais enfin je le remarque et je le dis sans prétention. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision. Les manèges, il n'y a que ça dans les rues autour de toi. Le bus, le train, l'escalator, du métro, des mégastores. Des spectacles, il y en a plein, la fille de tes concitoyens. Il suffit d'un nouveau regard, d'une nouvelle attention. Et ta ville devient ce parc comme il est une attraction. Les jours faut l'embellir, c'est le plus fun des loisirs. Inventer, entreprendre, proposer, bâtir, défendre. Tous les jours faut que tu oses repeindre ta ville en rose. Ne laisse pas les énarques imposer leurs solutions. Avec tous rêves, ce parc et passe aux réalisations. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision. Des aventures tu en vivras, en réalité romance. Tu cherches à unir les gens contre le pouvoir de l'argent. Les riches et les promoteurs te traiteront d'agitateur. Puis un jour les flics t'embarquent, tu chanteras en détention. Vous pourrez pas parquer mon parc, ils appellent sa population. Tel Zorro ou tel Robin, mais un simple citoyen. Tel espiègle, tel Guillaume, tel Lampia ou tel Mapaume. Tu te feras voyou d'honneur, des escumes, des penseurs. Avec comme flèche et comme arc, ta tchatche et tes convictions. Tu délivreras ton parc de toutes les oppressions.
C'est aujourd'hui et ici que nous allons faire de Toulouse cette belle ville, la plus belle ville du monde.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision. La vie comme scénario et la ville pour studio. Ses habitants pour acteurs, chacun comme producteur. Ton film est bien le plus grand, il déborde tous les écrans. Même Hollywood et ses stars qui pour les espoirs sont champions. Ne saurait pas la jeune énargue en concevoir la projection. Tandis que Jack souterré dans son Éden à l'ambigué. Ou poitré dans un palace, playware game de guerre lasse. Tu as partout ta ludothèque sans débourser un copec. Dollars, francs, écus ou marques, même compté par millions. Ne pourrait pas de ton parc acheter les attractions. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision.
Le paradis n'est pas l'ailleurs dont rêvent les voyageurs. Il n'est pas dans l'au-delà, ni dans aucun autre foi. Le paradis n'est pas demain, mais aujourd'hui entre tes mains. Il est là où tu mets la marque de ta propre élévation. Là où tu construis ton parc, là où tu mènes ton action.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision.
Alors de retour à l'antenne.
Très belle chanson en tout cas.
Eliane, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce choix de chanson?
Alors pour moi, les Fabulous Troubadours, ils incarnent aussi une forme d'engagement politique au sein d'une cité, non pas politique dans l'institution même politique, mais justement de dire ben, chacun a sa place, chacun peut prendre sa parole, chacun à son petit niveau peut créer une intelligence collective ou des
mouvements.
Ouais, un mouvement. Et attendons pas que ça soit forcément d'en haut que viennent les choses, mais de notre place à nous, chacun, on peut, à partir de liens d'amitié, collectif, voisinage, créer quelque chose et faire que la ville devienne notre plus beau parc.
En tout cas, votre association est très intéressante, hein, ça je le constate. Avez-vous des prochains événements ?
Oui, absolument. On a un événement important le 6 décembre, c'est un mercredi. On va vernir les créations partagées, donc les productions qui sont nées des parcours de la saison passée. Eliane, elle est avec Barbara engagée dans la deuxième saison qui va aboutir ses parcours en 2018. Mais les parcours 2016-2017 viennent d'aboutir et ont abouti à des productions collectives qu'on va montrer au Cairn. C'est ce lieu culturel nouveau à Mérin, dans le Jardin Alpin, l'ancienne villa du Jardin Alpin, chemin du Jardin Alpin 7. Et vous trouverez le poème auquel a abouti le groupe ATD Quart-Monde sur l'expérience de l'injustice, une installation son et filmique à laquelle est arrivé le groupe Char, des femmes victimes de violences domestiques, avec le cinéaste Fabrice Aragno, qui est le chef opérateur des films de Jean-Luc Godard, qui suivait ce groupe-là l'an passé. Et puis l'œuvre chorégraphique du groupe Les Maîtres Fous, les jeunes en situation de décrochage scolaire et sociaux, qui travaillaient avec la compagnie 7273, une compagnie de danse d'importance nationale. Donc ça, c'est à 20h le 6 décembre. Ensuite, on bascule sur le 18 décembre, c'est un lundi. On accueille le directeur du théâtre Amstramgram, Fabrice Melchiot, et sa responsable des relations au public, Mariama Silla, qui vont nous parler d'une action menée avec les abris de la ville et avec des poètes syriens dans une soirée qui s'appelle L'art à l'abri. Et donc ce sera de 19h à 20h30, ça finit par une agape offerte à toutes celles et ceux qui viennent penser, réfléchir, rire, s'émouvoir avec nous. L'année prochaine, nous aurons en février, le 22 février, une rencontre sur la question du commerce. Est-ce que le commerce met en relation les peuples? Est-ce qu'il les assujettit? Est-ce qu'il corrompt les peuples? C'est une question dont s'emparera une prof de la Sorbonne, Catherine Larère, qui nous fait l'amitié de venir à l'invitation de la Marmite. Ce sera au musée d'ethnographie, et puis peut-être une dernière proposition filmique, celle-ci. Il y en a beaucoup d'autres avant ce film-là, mais pour que vous ayez un peu une variété d'offres, c'est le film dont parlait tout à l'heure Eliane, celui d'Aki Kaurismäki, Le Havre, qui révèle que la question de la citoyenneté, c'est pas simplement voter dans un isoloir, c'est aussi prendre soin de qui nous entoure, se sentir concerné, ne pas uniquement attendre de services bureaucratiques ou du politique, ce qui peut être aussi une responsabilité collective, une assomption personnelle. Et c'est donc ce très beau film Le Havre de 2011 qui sera projeté le 14 mars à Fonction Cinéma. Tous nos événements sont gratuits, je le dis. Si vous voulez aller au cinéma gratuitement, entendre de grands intellectuels gratuitement, assister à des moments de veillée qui sont des moments où on réfléchit aux idéaux de la marmite ensemble, c'est gratuit. Et en plus, c'est fini par une agape.
Mais comment, en fait, c'est gratuit, mais ils doivent venir s'inscrire sur votre site, ou comment ça se passe?
Oui, c'est une bonne question. Non, en fait, l'essentiel de la marmite, c'est une partie immergée dont on n'a pas conscience. Parce que quand on va avec des groupes au théâtre, on y va sur des représentations qui ont de toute façon lieu. On est au milieu minorisé, au milieu d'un public qui ne sait pas qu'on est là, qui ne sait, il n'y a rien qui nous distingue. On ne va pas dire on va dans telle salle avec des femmes victimes de violences domestiques, non. Donc on va au musée aux heures d'ouverture, on va au théâtre aux heures où la représentation a lieu. Donc,
incognito.
Pardon ?
Incognito.
Enfin, le théâtre sait qu'on y va, mais ce n'est pas des soirées marmites.
Oui,
et
oui,
toutes
oui.
Ces soirées-là sont vraiment les soirées les plus nombreuses. Mais par contre, il y a des fois où la marmite produit elle-même les événements. Et c'est le cas des films, et c'est le cas des rencontres, et c'est le cas des veillées, et c'est le cas de ce vernissage du 6 décembre dont je parlais. Et donc là, ce sont des événements qui, eux, sont publics, eux reçoivent une certaine publicité. Et pour faire partie de la marmite, être au courant des activités de la marmite, il faut aller sur le site internet. Patrice, je vous prie de l'indiquer si vous le pouvez sur votre propre site de Radio Sans Chaîne.
On verra.
Je sais que vous avez un important secrétariat et toute une bureaucratie
exactement,
qui peut accomplir cette tâche.
Avec de l'argent peut-être, mais non, ça va. Ça va être sur notre site internet gratuitement.
Fong le promet, donc on va avoir.
Il nous l'a promis, exactement.
Le lien avec le site lamarmite.org, et sur lamarmite.org, il y a un onglet qui s'appelle Participer, et il me semble que si on descend un petit peu sur cet onglet, il y a un moment où on dit je veux être au courant de vos activités,
oui,
et
exactement.
Ensuite on reçoit un mail. Si des gens n'ont pas de mail, s'ils ont un numéro de téléphone, s'ils ont une adresse postale, ça peut tout à fait arriver. On a même des gens qui viennent de France. Ils peuvent tout à fait nous l'indiquer, puis on les tiendra au courant de nos activités.
Eh bien, Eliane et Mathieu, on vous remercie d'être venus à l'antenne nous parler de la marmite. Moi, je vous félicite pour cette association qui a, en tout cas, le mérite d'organiser un certain intérêt chez les gens, comment dire,
lambda, et qui s'y connaissent pas trop en art, en fait, hein, c'est ça?
Oui, et puis, je veux dire, il y a plein de gens qui sont passionnés par l'art aussi.
Aussi, mais
je veux
dire,
vous savez amener l'intérêt, en tout cas, chez les gens, en les emmenant dans vos expositions et vos événements. Et si en plus c'est gratuit, donc il n'y a aucune raison de ne pas, en tout cas par curiosité, venir voir. Et au nom de la culture de Genève, donc moi je vous remercie, même si je suis personne. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de fabuleux, parce que ce serait dommage de passer à côté. Il y a tellement d'expositions d'artistes qui n'ont pas de vitrine en ce moment, d'expositions prévues, de salles et tout ça, que, ou même de comédiens qui n'ont pas de théâtre, que vous, au moins, vous avez le mérite d'amener l'intérêt vers ça, et c'est quand même quelque chose qui se perd un petit peu en ce moment, j'ai l'impression. Il y a certaines entités à Genève qui existent, mais c'est pas forcément les plus ouvertes.
Bah merci à vous, Eliane Rigamonti, merci. Et moi, on est très conscients aussi de tout le travail que c'est de réaliser une émission comme la vôtre. On a eu d'intenses contacts en amont, et donc merci vraiment pour le sérieux du travail qui est le vôtre dans cette émission et sur cette chaîne. Vous enrichissez l'espace public, et si on pouvait avoir le même effet de notre côté avec la marmite, on serait très heureux. Voilà.
Mais je pense que vous reviendrez bien, peut-être l'année prochaine. Mais moi, vraiment, je te remercie, Mathieu, et aussi Eliane. Et je remercie Argos qui nous a mis en lien. Je sais pas, je te donne la fin, le mot de la fin.
Alors moi, le mot de la fin, je vais passer mon tour, je vais vous laisser à la marmite le mot de la fin.
Exactement.
Je vous laisse promouvoir l'art un peu et donner du cœur aux gens pour venir voir l'art et aussi le soutenir, si ça vous dérange pas.
En deux mots.
Voilà, évidemment, en deux mots, dire une chose pointue, intelligente. Peut-être que je vais finir, alors, puisqu'on a commencé par une citation, finir par une autre citation d'un grand poète, un poète martiniquais, Aimé Césaire, qui a été toute sa vie un combattant contre la colonisation française, mais qui, pour la combattre, a utilisé un savoir qu'il avait appris dans les meilleures écoles de France, et notamment dans la lecture des philosophes des Lumières. Il disait ceci: il est deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Il est deux manières de se perdre, soit en restant complètement replié sur soi, soit en étant intéressé que par les choses déjà universelles, déjà mondialisées, etc. Mais il y a un moyen terme qui est ne pas s'oublier quand on s'ouvre aux autres, mais s'ouvrir aux autres quand même. Et ce moyen terme, c'est probablement à ça qu'on associe le mot culture, Eliane et moi, et tous ceux qui font la marmite.
On vous remercie. On va laisser les auditrices et les auditeurs méditer là-dessus.
Ouais, ouais.
Excellente journée à toutes et à tous.
Au revoir.
À demain. Merci beaucoup.
Au revoir. Bye bye.
Merci. Très bien.